plus maintenant parce qu'on a de nouveau vidé tout ça, par le travail des Juifs qui ont immigré au XXe siècle. Mais c'était un grand problème, et voilà, la protection naturelle sans les grenouilles, et cela est donc ancré dans le texte biblique. Vous comprenez, lorsque là on lit des animaux qui sont une abomination, ainsi ces animaux sont prohibés pour la nourriture, mais par conséquent, ils étaient protégés. Les animaux prohibés étaient protégés. C'est une protection d'animaux. Les animaux protégés dans la Bible n'étaient pas des animaux saints, comme par exemple les vaches en Inde. Mais au contraire, la parole de Dieu les appelle animaux impurs. Donc, déclarer des animaux comme saints peut avoir des conséquences aussi néfastes que si l'on ne protège pas du tout certains animaux. Vous voyez, lorsque, selon Lévitique 11, les rats, il ne faut pas les manger. Ils sont impurs. Parce qu'ils ne ruminent pas, ils n'ont pas la langue fendue. Mais, puisqu'ils sont impurs, on peut les tuer quand il faut. Seulement pas manger. Donc, ils n'étaient pas des animaux sains, des animaux impurs. Donc, s'il faut tuer, on a pu tuer. C'est là la sagesse derrière. 23, oiseaux protégés. Après les poissons, viennent les oiseaux. Lévitique 11, verset 13. Et d'entre les oiseaux, vous aurez ceux-ci en abomination. On n'en mangera point. Ce sera une chose abominable. L'aigle et l'orfraie, et l'aigle de mer, et le faucon, et le milan, selon son espèce, tout corbeau, selon son espèce, et l'autruche femelle, et l'autruche mâle, et la mouette, et l'épervier, selon son espèce, et le hibou, et le plongeon, et l'ibis. Alors, j'ai expliqué, les oiseaux prohibés étaient des oiseaux protégés. Alors, quel oiseau, par exemple, en Israël était protégé? D'abord, des oiseaux de proie. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Des oiseaux, des mammifères, des souris, des rats. Ensuite, protégés étaient les vautours, qui mangent des cadavres d'animaux. Ils aiment ça, je ne peux pas comprendre. Cigognes, ibis, qui mangent des poissons, grenouilles, souris, insectes. Les hérons, qui mangent des poissons, grenouilles, souris. Les mouettes, qui mangent des poissons, des souris. Les chouettes, des oiseaux, des mammifères en général, mais aussi des rats, des souris en particulier. Corbeaux, corneilles, qui mangent des feuilles, des semences, mais aussi des cadavres d'animaux. Les huppes fasciées, qui mangent des insectes, des locustes. Et voilà, parmi les oiseaux, donc, le mot hébreu, ouf, veut dire quelque chose qui vole. Donc c'est plus vaste que notre terme oiseau. C'est pour ça que le texte parle aussi des chauves-souris qui mangent des insectes. Donc, oiseaux protégés. Est-ce que nous pouvons déduire quel oiseau en Israël on a pu manger? Quelles étaient permises? Oie. Donc ils mangent des feuilles, des semences. Canards, qui mangent feuilles, semences, poissons. Pigeons, qui mangent feuilles, semences. Les faisans, qui mangent des feuilles, des semences. Perdrix grises, qui mangent des feuilles, des semences. Oiseaux chanteurs, en général, qui mangent des feuilles, des semences, des insectes. Et le beau oiseau martin pêcheur, qui mange bien sûr des poissons, mais aussi des insectes. Et par exemple le gangas unibande, qui mange des feuilles et des semences. Vous voyez, donc, il y a donc une relation avec ce que ces oiseaux mangent. Et voilà l'explication. On peut dire que tous ces oiseaux protégés sont en quelque sorte la police de santé, puisqu'ils mangent des cadavres d'animaux, qui sont très dangereux, n'est-ce pas? Mon petit garçon, j'ai dû expliquer, parce qu'il bouge, il aime bouger, n'est-ce pas? Et il ne faut jamais toucher un oiseau que tu trouves par terre qui est mort. Il y a le danger que tu vas entrer tes doigts dans ta bouche et puis c'est dangereux. Donc, il ne faut pas amener à la maison donc, des souris mortes que tu as trouvées. Mais nous pouvons être contents que nous avons beaucoup de corneilles autour de notre maison qui mangent tout ça. Ils aiment ça. Alors, ils ont notre police de santé qui mange des cadavres d'animaux avant que mon petit garçon les amène à la maison. Et cela est en quelque sorte un recyclage d'éléments nutritifs au cycle écologique. C'est formidable, il y a un plan derrière. Ils mangent, ces oiseaux que j'ai mentionnés, des rats et des souris, ce qui est une grande protection contre la peste, parce que les pathogènes de la peste sont souvent portés par les rats et les souris. Ils mangent des locustes, plusieurs de ces oiseaux. Donc, les locustes peuvent être un très grand danger au Proche-Orient en rapport avec les plaies des locustes. Alors, on a une police qui peut protéger là. Et en plus, ils mangent de grands insectes. Ils ne sont pas très agréables pour les êtres humains. Je continue. Point 24. Écosystème et guerre. Nous vivons dans un monde d'injustice. C'est pour ça, selon la Bible, l'État a reçu donc un pouvoir de violence pour exercer donc la violence légale. Mais le citoyen, selon la Bible, n'a pas de permission pour exécuter une telle violence. Seulement l'État, pour protéger l'État et les citoyens. Alors là, en Deutéronome 20, verset 19, Dieu dit à Israël, « Quand tu assiégeras une ville pendant plusieurs jours, en lui faisant la guerre pour la prendre, tu ne détruiras pas ses arbres en levant la hache contre eux, car tu pourras en manger. Tu ne les couperas pas. » Donc ici, vous trouvez une défense de détruire le système écologique pendant une guerre. En fait, c'est une interdiction de pratiquer une politique de la terre brûlée, qui était par exemple pratiquée par Saddam Hussein lorsqu'il a laisser brûler les sources de pétrole au Koweït, ou par exemple les Romains dans leurs deux guerres contre les Juifs, 70 et 135 après Jésus-Christ, ils ont volontairement détruit l'écologie, ils ont coupé des arbres, ils ont détruit la nature. Ça c'est la politique de la terre brûlée qui était défendue pour Israël. 25, purification des bactéries, de cadavres d'animaux. Je lis en Lévitique 11, verset 31. « Ceux-ci vous seront impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Et tout ce sur quoi il en tombera, quand ils seront morts, sera impur. Ustensiles de bois, vêtements, pots ou sacs. Tout objet qui sert à un usage quelconque sera mis dans l'eau. Et sera impur jusqu'au soir. Alors, il sera net. » Vous voyez, le cadavre, par exemple, d'une souris ou d'un rat, contient des bactéries toxiques et dangereuses. Et voilà, les objets en contact avec de tels cadavres sont rendus impurs, mais le texte biblique dit ils doivent être lavés dans l'eau à cause des bactéries toxiques. Et ensuite, on peut les réutiliser. Donc, purification des bactéries, des cadavres d'animaux, par le lavage dans l'eau. Ça suffit. Mais à l'époque, on ne savait encore rien de ces pathogènes. Point 26. Purification des bactéries, de cadavres d'animaux. C'est la même chose. Mais ici, par la destruction ou par l'enlèvement de déchets. Je continue en Lévitique 11, verset 33. Et tout vase de terre dans lequel il entend quelque chose, c'est ces cadavres, n'est-ce pas? Tout ce qui est dedans sera impur, et vous casserez le vase. Et tout aliment qu'on mange sur lequel il sera venu de cette eau, donc cette eau contaminée, sera impur. Et tout breuvage qu'on boit dans quelque vase que ce soit sera impur. Aujourd'hui, par la science moderne, nous comprenons des liquides d'un cadavre, par exemple souris, d'un rat, peuvent pénétrer dans les pores d'un vase d'argile. Donc, il ne suffit pas de vouloir laver dans l'eau un vase d'argile parce que les pathogènes restent dedans. Ça reste dangereux. Et voilà, la loi de Moïse explique qu'il faut détruire ces vases. Et vous casserez le vase de terre. Destruction de vase d'argile. Mais j'ai trouvé en Lévitique 6, verset 21, un vase de métal. On ne doit pas détruire, on peut le rincer et nettoyer et réutiliser. Et bien sûr, vous comprenez que dans un vase de métal, les pathogènes ne peuvent pas pénétrer. Donc on peut complètement nettoyer et réutiliser sans problème. En plus, on a vu dans ce texte des liquides, par exemple l'eau, sont contaminés par des bactéries toxiques. Par de tels liquides, des bactéries toxiques sont facilement répandues. C'est pour ça qu'il faut jeter tous les liquides que normalement on aurait bu, il faut jeter après cette contamination. N'est-ce pas? Lorsque j'ai été en Afrique pour la première fois, on m'a expliqué, lorsque j'ai bu du thé ou de l'eau, on m'a dit, lorsqu'il y avait une mouche qui est entrée, on va tout de suite enlever tout et puis apporter une nouvelle tasse. Et on m'a expliqué, tu sais, à la première année en Afrique, on fonctionne comme ça. Mais quand tu reviens une autre année, alors on va simplement enlever la mouche et tu vas quand même boire. Et la troisième année, tu seras déjà un peu spécialiste de l'Afrique. Alors là, quand une mouche entre dans l'eau, alors, tu prends la mouche, tu la mets à la bouche et puis tu jettes de l'eau. Oui. Alors, vous comprenez de l'humour, n'est-ce pas? Mais c'est quand même sérieux, hein, tout ça. Maintenant, le point 27. Bactéries et semences. Alors, quand vous lisez la Bible, vous avez tout le temps des questions, n'est-ce pas? Verset 37. On lit. Et s'il tombe quelque chose de leur corps, de leur corps mort, sur une semence qui se sème, elle sera pure. Tiens, maintenant, on ne comprend plus rien. Mais si on avait mis de l'eau sur la semence et qu'il tombe sur elle quelque chose de leur corps mort, elle vous sera impure. Mais pourquoi? On ne savait pas expliquer à l'époque. Il fallait simplement obéir, puisque Dieu l'a dit dans sa parole, inspirée. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre. N'est-ce pas? Les bactéries ne peuvent normalement pas infecter les semences parce qu'ils sont trop sèches. Ça ne fait rien. Mais si on avait mis de l'eau sur la semence, c'est tout à fait différent. Mettre des semences dans l'eau et les faire germer, c'est par exemple une technique où on peut, en Israël, récolter la moisson quelques semaines plus tôt. Chez les Romains, on trouve cette technique seulement depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais je ne veux pas dire que ce texte enseigne donc cette méthode. C'est possible qu'on l'a déjà fait depuis l'époque de Moïse, mais le texte simplement explique si on avait mis de l'eau sur la semence. La raison n'est pas expliquée, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a mis de l'eau, alors il faut voir que un cadavre dans l'eau avec des semences, c'est une catastrophe après quelques heures. Ça produit donc une contamination très dangereuse. On était protégé par la parole de Dieu. 28. Bactéries et matières fécales. Voyez, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec 600 000 personnes. Des soldats au-dessus de 20 ans, de 20 ans et au-dessus, ça fait donc en tout un peuple de peut-être 4 millions qui est sorti pour traverser le désert du Sinaï pour aller à la terre promise. Et bien là, Moïse explique en Deutéronome 23, verset 12, « Et tu auras un endroit hors du camp, tu sortiras là dehors, et tu auras, outre tes armes, un pieu. » Il arrivera quand tu t'assiéras dehors que tu creuseras avec ce pieu et tu te retourneras et tu couvriras ce qui est sorti de toi. Vous comprenez tous de quoi il s'agit. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. Et ton camp sera saint, afin qu'ils ne voient parmi toi rien de malséant et qu'ils ne se détournent d'avec toi. Donc, ce sont des instructions formidables d'hygiène. Et on doit dire, seulement depuis la fin du 19e siècle, on a une connaissance générale de cette forme d'hygiène en rapport avec les matières fécales. Mais dans la Bible, on l'a depuis 3600 ans. C'est remarquable. N'est-ce pas? Il y a un grand danger avec ces matières fécales, où il peut y avoir des pathogènes qui provoquent la diffuse choléra, fièvre de marécage, etc. C'est très dangereux. Et vous voyez, dans l'histoire européenne, dans les guerres par exemple, souvent, normalement, plus de soldats sont morts dans les camps militaires que sur les champs de bataille. Justement à cause de ces problèmes-là, qui étaient résolus pour Israël. Vous voyez là, j'ai encore mis une photo